14h04 sur France Inter, je vous laisse avec Anne Pastor, voyage en terre d'outre-mer.
Ce que tu vois, c'est des restes de notre rencontre avec la colonisation. Tout ce que tu vois, c'est des miettes. Tu veux parler des canards, tout. Tu arrives avec ton micro comme ça, c'est un peu déplacé, moi, je trouve.
Épisode numéro 1. La fin de l'exotisme.
Les Amérindiens, ça n'intéresse pas la France.
Je parle même d'un génocide entre eux, les suicides, l'alcool, la drogue. On en aura vite fini avec 1800 personnes.
Voyage en terre d'outre-mer. Ces oubliés de la République. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Kanak de Nouvelle-Calédonie, Mahorais de Mayotte, Amérindiens de Guyane, insulaires de Polynésie, ces citoyens français ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être. Longtemps considérés comme des objets de curiosité, d'études ou de fantasmes, ces peuples issus de la colonisation se battent encore pour gagner leur place. Cet été, ils s'invitent sur le devant de la scène avec leur histoire, leur mode de vie, leurs croyances et leur altérité. C'est la voix des peuples autochtones. La France ne l'a pas entendue pendant des siècles, alors peut-être est-il temps de l'écouter. Aujourd'hui, direction la Guyane et la Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, 100 000 Kanaks ont retrouvé leur liberté et leurs droits après un siècle et demi de déchirement et de souffrance. En 2018, cette collectivité d'outre-mer devrait se prononcer sur son indépendance. C'est l'histoire d'une émancipation et d'une identité retrouvée. En Guyane française, 3000 Amérindiens de la forêt amazonienne survivent dans une indifférence générale, victimes des chercheurs d'or, d'empoisonnement au mercure et de lois inadaptées à leur réalité, ils sont les abandonnés de la République. Ils demandent que leurs droits soient respectés au même titre que les autres citoyens de la métropole. Deux peuples, deux continents et un même voyage, c'est la fin de l'exotisme dans les territoires d'outre-mer.
À l'origine de ce film, il y a un livre qui a marqué mon enfance. Parana, le petit indien d'Amazonie. C'était pour moi une Amazonie de rêve, le paradis perdu.
Ces peuples amérindiens sont une parcelle du monde où on projette le plus de choses. Il y a des tas de personnes qui vont en Guyane.
Francis Dupuis, anthropologue.
S'attendant à trouver quelque chose comme la société idéale, en quelque sorte.
Quand j'ai appris que ces Indiens étaient menacés, je suis parti à leur rencontre.
Ce sont les derniers avatars de cet exotisme-là. Les Amérindiens sont un peuple objet. Ils n'apparaissent jamais comme des acteurs de l'histoire.
Gendarmerie de Marie-Passela, bonjour.
Bonjour monsieur, je viens chercher une autorisation pour me rendre en territoire amérindien.
Je vous en donnais une copie pour vous. Je garde la deuxième. Et au retour, on passe par chez nous.
Et en plus, je dois avoir un rôle d'informatrice parce que si je découvre des choses, il faut que je vous en avertisse.
Voilà, c'est pour ça que vous repassez par ici. Faites attention en forêt, hein, milieu hostile.
En forêt, mais aussi attention sur le fleuve, non?
Sur le fleuve, partout.
Le plus grand danger sont les hommes ou les animaux?
Vous verrez bien.
Merci beaucoup, bonne journée. Les Marie-Passoula ressemblent à une petite bourgade du Far West. 10 000 habitants aujourd'hui. La poste française, la gendarmerie, le parc amazonien. Et puis ici et là, des maisons de toutes les couleurs qui font face au fleuve. Tandis que de l'autre côté, il y a donc ce village du Suriname avec ses navettes incessantes d'une rive à l'autre. Bienvenue dans le Haut-Maroni. Sur le quai des Amérindiens, une dizaine de personnes prêtes à embarquer et déjà tout un monde interlope. Une sœur évangéliste en mission et une vieille indienne en pagne rouge suçant des écorces d'arbres. Un infirmier avec son kit pour relever les taux de mercure et un représentant d'une association de prévention contre le suicide. Un chercheur d'or clandestin, machette en bandoulière et des hommes qui engloutissent bière sur bière. Des jeunes lycéens de retour au village et des femmes venues encaisser des allocations familiales à la poste de Marie-Passoula. un tableau à l'image de ce paradis perdu des Wayana, de cette rencontre entre deux mondes. Aujourd'hui, ils ont le malheur de vivre sur un territoire convoité. En 2016, les sites d'orpaillage clandestin ont augmenté de 24%, menaçant cette forêt et ses Amérindiens. Le constat est amer, la sécurité des biens et des personnes n'est plus assurée sur les rives du fleuve Maroni. Après 3 heures de navigation, la pirogue s'échoue sur les rives du Suriname, face au village Wayana de Talouen. Ils viennent se ravitailler dans ce hangar géré par des Chinois. Derrière la caisse, des centaines de colliers d'or sont exposés, les prix sont cassés et tout s'achète contre des espèces ou de l'or. Nourriture, armes, alcool, essence, mercure et sexe. C'est le poste d'observation de Patrick Twenke.
Ce sont les militaires qui sont là. Ben là, paraît-il qu'ils font le contrôle des pirogues pour les Brésiliens qui montent. Je ne sais pas s'ils font leur boulot. Ils sont là pour décorer, c'est tout.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a la belle maison bleue des gendarmes, mais qu'il n'y a personne.
Peut-être qu'ils sont en vacances. Et les gendarmes qui étaient installés ici, ils sont restés quoi 2008-2009 jusqu'à 2013. Ensuite, ils ont abandonné complètement les villages. Il n'y a plus de poste à Twenke. Quand même, sans nous avertir la population amérindienne, ils sont partis comme ça. Hein. Ils ont abandonné le village. C'est triste. Et là, quand ils étaient présents, on était en sécurité. Et depuis qu'ils sont partis, on est revenus nous-mêmes. Comment on va faire? Comment on va faire? C'est ça le problème. Qui va nous aider?
Il y a beaucoup d'orpaillage dans la région?
Il y a beaucoup de les deux côtés, en France et sur la rive sur la rive. C'est pas uniquement de l'or qu'ils font, ils tuent des espèces protégées, ils détruisent la forêt, ils pillent les gens aussi, et des fois, pour les des pirogues et des moteurs, des gens. À chaque fois, on demandait aux autorités de faire quelque chose, parce qu'on n'est pas en sécurité dans nos territoires. Et là, de plus en plus, on n'est pas tranquille. On vit de la pêche, la cueillette, la chasse. On prend l'eau à la rivière et que l'eau est en ce moment est polluée. Nos enfants se baignent dans la rivière, il y a tellement de maladies qui passent avec le mouvement de la terre et qui est rejeté à la rivière. Une fois c'était du lait, c'est donc on ne voyait plus de poissons, on ne pouvait plus pêcher ni mettre nos filets. Des fois dans les criques on voyait des poissons qui sont empoisonnés. Comme on dit à chaque fois, l'eau c'est notre père, la forêt c'est notre mère. Comment faire pour la préservation de notre rivière, de notre forêt? On ne demande que ça à l'État, qu'il fasse quelque chose. Ça fait des décennies et des décennies qu'on en parle, qu'on discute des problèmes des peuples autochtones. Qu'on nous dit oui, on fait ça et ensuite on ne voit pas tellement de résultats.
Ça vous met en colère?
Triste, en colère, mais notre colère ne peut pas nous aider. L'État prend en considération ce courroux, le CNES.
C'est-à-dire l'espace?
Ça rapporte l'espace, ouais. Voilà. On est abandonné par l'État parce qu'on n'est que minorité. Et un avenir meilleur, c'est surtout faire quelque chose pour notre territoire, pour qu'on puisse vivre tranquillement, en liberté. Des fois, je me sens un peu désespéré.
Depuis 1969, ils sont des citoyens français. L'autorité spirituelle des Wayana, le Grand Man, se sent lui aussi impuissant.
Je m'appelle Amai Poti Twenke. Je parle au nom de tous les Wayana, mais comme je ne parle pas français, j'ai du mal à faire entendre mes revendications. Et finalement, je n'ai pas les moyens pour agir et je le regrette. Une fois, je suis même allé à Cayenne voir le préfet, mais il ne nous a pas reçus. Aujourd'hui, à cause de leur paillage, nos poissons sont contaminés par le mercure. Mais c'est la base de notre alimentation, et cela me rend très triste. Je l'ai dit plusieurs fois aux autorités françaises, mais rien n'a changé. Même la justice ne nous a pas entendus. Et nous ne pouvons pas agir nous-mêmes. Maintenant, je n'ai plus confiance.
Et même là, on voit juste en face de nous la gendarmerie, une belle maison toute bleue. Mais on se rend bien compte que ça ne peut pas suffire vis-à-vis du trafic et de leur paillage et que finalement vous êtes impuissant.
Oui, et au poste de Twenke, il y a beaucoup de complicité. Pourtant, à une époque, il y avait vraiment une volonté de la part de l'État de faire cesser leur paillage. Et les sites comme Linini, Blikat, Waki ont été démantelés. et leur paillage illégal a cessé. Donc, c'est possible. Ça n'a repris que récemment. Les autorités disent qu'elles vont agir. Mais ce sont juste des paroles. Et elles participent à cet orpaillage illégal. Je ne suis pas écouté par les autorités qui tolèrent de plus en plus la situation. Si bien qu'aujourd'hui, nous, les hommes Wayana, nous ne pouvons plus chasser, pêcher, sans avoir en permanence ce sentiment d'insécurité. J'ai le sentiment que nous sommes abandonnés. Je n'y crois plus et je baisse les bras. Je suis le grand man, mais c'est simplement un titre. Voilà, je n'ai rien à ajouter.
Ce que les Wayana vivent le plus mal, c'est l'intrusion massive des orpailleurs sur leur territoire. L'État est coupable, indéniablement coupable, depuis près de 30 ans. Dans quel département français accepterait-on que l'on pille sans vergogne les ressources naturelles comme on le fait en Guyane ? Bien évidemment qu'il y a l'insécurité, tous ces problèmes de violence que génère la population des orpailleurs. La prostitution, etc., etc. Bon, il y a une autre nuisance qui est extrêmement grave, déstabilisant, c'est ces changements permanents de cap, de politique, de préconisation, etc. Donc, d'un côté, il y a un discours, parfois très va-t-en-guerre, on va expulser les orpailleurs, on monte des coups de poing, on détruit des camps d'orpaillage qui se refont dans les semaines qui suivent, etc., etc. Mais on ne règle pas le problème.
La fin de l'exotisme chez les Amérindiens, en Guyane.
Ces premiers habitants de Guyane tentent aujourd'hui de retrouver une existence sereine à l'image d'Aima Opoya, ancien gendarme et artisan traditionnel du village de Talouen.
Nous, les Wayana, on vit en Guyane française, un peu au Suriname et au Brésil. Aujourd'hui, on sait que notre territoire a une autre propriété, donc l'État.
Ça vous pose problème ?
Oui. Ça bloque notre déplacement qui était libre.
Hein ?
Et alors là, on est devant une maison, c'est extraordinaire, parce qu'il y a le drapeau français.
Le pays des droits de l'homme. D'ailleurs, heureusement, merci quand même à la France, parce que je pense que si on était au Brésil, je pense qu'on était, malade. Quoi. C'est pire encore que nous. Quoi. Par exemple, la France ne nous a jamais massacrés encore.
Elle vous a assimilé un petit peu quand même.
Mais c'était indirectement.
C'était plutôt par les missionnaires.
Les missionnaires, les maladies, qui a tué beaucoup de villages d'ailleurs. Et là, c'était des massacres. Les gens ne sont même pas enterrés, disait mon grand-père. On n'avait plus le temps, quoi. Fuir, c'était le seul médicament à l'époque. Fuir la maladie. Quoi. Et le reste, eh ben, c'est nous, quoi. Les descendants, c'est nous.
Effectivement, on voit ce matin, la vie est paisible. Là, il y a cette femme qui est en train de préparer du manioc. Manioc sur le tamis.
La mode de vie des Wayana, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi et que j'aime. On a la forêt autour de nous, on a nos poissons, nos gibiers, qu'on est vraiment presque dans un paradis. Quoi. Et cette mode de vie que les Wayana ont su développer quoi, depuis... Des milliers d'années. Jusqu'à aujourd'hui, ça change un peu quoi, parce que les villages sont fixes. Il y a l'école qui s'est implantée, les centres de soins, donc les avantages, infrastructures qui se développent petit à petit chez nous aussi, amènent plutôt un changement. Quoi.
Ça, c'est des points positifs, hein, tout comme l'eau potable. Mais les points négatifs, ce serait quoi ?
Là, on a un gros souci avec les orpailleurs, donc ils débarquent un peu n'importe comment. Après, il y a d'autres choses, comme l'évangile, par exemple. Ça, c'est pas très bien pour nous, quoi, mais beaucoup sont dedans aujourd'hui parce que c'est à la mode. Et puis, j'espère qu'ils vont se ressaisir un jour.
Devant cette maison, cette petite case. Bonjour, madame. Melikoé 214, puisque maintenant... les cases peuvent avoir des noms, le nom de la famille et le numéro. D'ici quelques mois, il devrait y avoir l'électricité et cela commence à poser d'autres problèmes puisque bien évidemment il faudra payer une facture d'électricité, voire même une taxe d'habitation et c'est le sujet du moment car dans ce village, 95% de la population est au chômage. Rares sont ceux qui travaillent.
Ouais. maintenant, on rencontre les vrais problèmes. C'est ce que moi j'appelle la réalité du terrain. Donc c'est RMI, RSA, l'allocation familiale, qui est devenu vraiment un budget familial aujourd'hui. Hein, parce qu'en même temps, ça aide beaucoup, mais en même temps, c'est... Oh, on utilise plutôt pour l'alcool, quoi. Ça, c'est pas très, ça, c'est pas très bon pour moi. Ici, c'est mon village. On l'a bâti avec mon grand-père, donc j'essaye de le défendre au mieux et surtout de l'intégrer petit à petit, quoi, avec des bonnes choses qui peuvent nous être utiles et à remettre un peu les Wayanas sur le rail, quoi.
Les Wayanas sont à la croisée des chemins. Les Wayanas ont eu à assimiler une intrusion forte de plusieurs agents extérieurs en très peu de temps. Voilà, il faut laisser aux sociétés le temps de s'adapter, de réagir, de trouver des réponses surtout. Le premier souci des Wayanas, c'est pas la République, hein, c'est les Wayanas. C'est ça qu'ils essayent de régler. Je pense également que l'inverse est vrai. Je pense pas que le premier souci de la République, ce soit les Wayanas.
Et dans le même temps, ils doivent être considérés comme n'importe quel citoyen français.
Bien sûr, tout en intégrant une réalité qui est incontournable, à savoir la spécificité de leur société, de leur culture. Ça, dans une France qui résonne de manière hexagonale, 2 siècles et demi après une révolution qui a voulu uniformiser le peuple français, c'est très difficile à admettre. Les gens chez nous ne sont pas préparés. On peut pas transposer tels quels les préceptes du fonctionnement de nos institutions à 7000 kilomètres de chez nous. Il faut tenir compte du contexte local. Citoyen, oui, mais citoyen et Wayana. C'est toujours sur cette même posture de celui qui sait, qui vient et qui a raison. On ne peut plus continuer d'accepter cette situation, ni pour les Wayanas, ni pour qui que ce soit d'autre d'ailleurs.
Tout a tellement changé en si peu de temps. L'école a bouleversé notre vie. Comme tous les enfants de mon village, je suis parti à 11 ans pour aller en ville, continuer mes études au collège et passer mon CAP en menuiserie. Pendant toutes ces années, je n'ai pas suffisamment appris les savoirs des Amérindiens. Je ne sais pas bien chasser. Je ne vais jamais seul en forêt parce que j'ai peur de m'y perdre. Dans quelques années, quand les jeunes diront qu'ils sont amérindiens, cela ne voudra plus rien dire. Parce qu'ils ne sauront rien de notre passé, de nos ancêtres, de notre culture.
Voyage en terre d'outre-mer. Sur France Inter.
D'une rive à l'autre, sur l'Oyapock, le village de Camopi est isolé au cœur de la forêt amazonienne. C'est le fleuve qui marque une frontière invisible entre la France et le Brésil. Mais il suffit de tendre l'oreille. Sur une berge, la fête et la salsa. Sur l'autre, le silence et le mal-être. Depuis 2005, une vague de suicides affecte Camopi, cette commune de 1750 habitants. Le taux de suicide des Amérindiens est 20 fois supérieur à celui de la métropole. L'ancien maire, René Monerville, a alerté les autorités. 10 ans après, des experts sont venus. Un rapport a été déposé au Sénat en 2015, mais il attend toujours des propositions concrètes. Le drame qui se joue ici n'est pas nouveau. Les causes de ce malaise sont multiples et profondes.
Lorsque les enfants sont ici, ils sont dans leur milieu, ils connaissent, ils savent ce qui se passe sur le territoire. Dès lors qu'ils quittent le territoire pour aller, par exemple, sur le littoral, ils oublient les actes culturels qu'ils faisaient sur place. Et après, vu que le littoral, il y a une telle vitesse de la société moderne, ils sont complètement dépassés. Ils n'arrivent pas à faire le lien entre la société moderne d'aujourd'hui et le monde amérindien qui vit à son rythme. Ils n'arrivent pas à se placer eux-mêmes en tant qu'amérindiens. Ils ne savent même pas où ils sont, en fait. Et souvent, comme il n'y a pas d'accompagnement sur place, les jeunes, n'arrivant pas à en parler, passent aux actes, malheureusement, irréparables.
Et puis, il n'y a pas de travail.
Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'occupation. L'inactivité fait qu'ils sont dans l'oisiveté, ils traînent, ils sont là. Et sans accompagnement, les adultes ne parlent pas ou très peu avec les jeunes, il y a une grande coupure.
Et puis en face, il y a Villa Brasil, d'ailleurs on entend bien le va-et-vient des pirogues.
C'est vrai qu'en face, ça n'arrange pas les choses. Avec l'installation de Villa Brasil, pousse les jeunes à une consommation d'alcool ou de drogue. De l'autre côté, étant un pays avec leurs propres lois, nous ne pouvons pas les empêcher de vendre.
Finalement, vous êtes totalement impuissant.
Impuissant, puisqu'on voit que les jeunes ont repris l'autorité sur leurs parents. Ça peut changer, mais il y a un gros travail qui nous attend. C'est la population qui doit se mettre debout pour dire qu'on en a marre de cette inaction. On veut réussir, mais qu'on réussisse ensemble. Trouver des partenaires économiques, sociaux, pour pouvoir relever la commune. Dans ce cas, faisons en sorte que l'économie puisse se développer sur la commune. Ça va freiner vraiment les attitudes néfastes qui existent au Cameroun, à savoir les suicides, l'alcoolisation et tout. C'est sûr qu'il y a un grand décalage entre ce que l'État français pense et ce que vive la population amérindienne, qui sont français, mais qui ne suivent pas la vraie réalité d'un citoyen français.
Siméon, on est là en train de se balader dans le village de Kamopi. Tu es né ici, toi ?
Oui, je suis né ici, c'est dans ma commune natale. Je n'ai pas grandi sous Rion. J'ai grandi un peu dans la pauvreté et malheureux. Comme j'ai perdu ma mère et mon grand frère, je tourne en rond et j'avais 8 ans. Il n'y avait que mon père avec moi. Et c'est pas évident avec mon père. Le fait qu'il ne nous donne pas des câlins, tout ça. Mais si je suis en manque d'amour.
Est-ce que toi, tu as pensé un jour à te suicider ?
Mais c'est ça, c'était après avoir 12 ans par là. J'avais toujours la haine dans moi et la tristesse. Et je ne sais pas quoi faire. Je tourne en rond. Je ne sais pas à qui je dois parler et je ne trouve pas la personne confiante, quoi. Confiance à qui je dois dévoiler tous mes sentiments et que je cherche aussi une personne, celui qui va me consoler, quoi, pour que je retrouve un peu le bonheur et tout, quoi. Mais avant ça, j'étais au lycée. Je n'ai pas eu mon CAP, en fait. Quand je suis retourné à Kamopi, là, je me vois comme si je ne suis rien, quoi. Je ne sers à rien et tout.
Et là, aujourd'hui, tu fais quoi ?
Et là, en ce moment-là, travailler un peu, pratiquer les français, voir un peu dans l'ordinateur, aider un peu les personnes adultes à aller sur Internet, et consulter leur CAF, leur compte, régler leurs papiers dans l'Internet, aider ma communauté en gros.
Tu as de l'espoir aujourd'hui ?
Pas vraiment, mais je tiens toujours le coup. Je suis toujours là, quoi. Je me bats pour l'avenir.
L'école reste encore un ascenseur social, même en temps de difficulté. Donc ici, l'école a tout son rôle à jouer. Et là, je pense que beaucoup de personnes ne l'ont pas compris. Madame Saint-Pierre Rosanne, je suis professeure de lettres modernes. Et donc, ils devraient maîtriser le minimum, c'est la langue du pays dont ils sont citoyens. Ils n'ont pas le choix, hein. Un grand poète antillais l'a dit, utiliser la langue contre ses ennemis. Bon, je ne dis pas que la France, c'est leurs ennemis, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Beaucoup n'est pas fait ici. Et il faudrait que l'État paye. Et c'est ça qui manque. Il n'y a pas de projet. On donne de l'argent, les gens vivotent. Plutôt que de faire de l'éducatif, on fait du curatif. C'est pas bien ça. C'est une question de volonté.
Comme par exemple, alors ?
Le développement économique, ouais. L'État est propriétaire du foncier ici. Hein. Alors, même si on voudrait faire un développement sans foncier, cela ne se conçoit pas. Donc, je pense que ceux qui sont en charge de l'administration de la Guyane et de Kamopi en particulier savent très bien qu'il n'y aura pas de développement. C'est un choix. Hein. Les gens résistent sans parler, mais ils résistent. Il faut choisir la bonne voie, la bonne méthode pour ne pas les effrayer. Parce que, mine de rien, ils aiment bien leurs colons. Je pense que les Amérindiens, ça n'intéresse pas la France. Et donc, la France ne va pas s'embêter avec un petit lot de 600 Amérindiens sur un territoire aussi immense. Je parle même d'un génocide. C'est-à-dire, on ne les tue pas comme avant avec des canons, mais bon, on sait très bien, entre eux. Les suicides, les avortements, les maladies sexuellement transmissibles, l'alcool, la drogue, on en aura vite fini avec 1800 personnes. Je suis choquée de voir la condition des hommes et des femmes ici.
Or ça, le procureur le sait, le préfet le sait, tout le monde le sait. Il y a une volonté politique pour que les choses restent en l'état. Il n'y a pas de hiérarchie pour moi. Nous sommes tous égaux devant le droit. Donc, je vais parler. Et quand les gens vont comprendre qu'ils doivent respecter le droit et respecter les personnes, je me tairai.
En mars dernier, tous les maux de la Guyane ont éclaté au grand jour. Il aura fallu 5 semaines de grève pour que 3 milliards d'euros soient débloqués. Les Amérindiens, eux aussi, ont voulu faire entendre leur voix et ont déposé 20 revendications. À ce jour, des promesses ont été faites, mais ils n'ont toujours rien vu venir. À 15 000 km de là, en Nouvelle-Calédonie, depuis 2010, la devise est « terre de parole, terre de partage ». C'est le symbole de la lutte du peuple kanak.
Qu'est-ce qui t'a pris, bordel, de casser la cabane, de ce panou-panou, puis sortir ton canif, ouvrir le billet de primitif, qui débarquait de sa savane? T'as fait prendre cette fille diaphane contre son gré et sous ses griffes. Des regrets, tu réponds négatif. Mieux encore, tu ricanes.
L'exposition internationale coloniale de 1931, noble entreprise d'union et de paix entre les nations.
Il y a un Kanak qui m'a dit...
Didier Deninx, écrivain.
En 1931, une centaine des nôtres ont été emmenés à Paris et ils ont été exposés derrière les grilles du zoo de l'exposition coloniale présentée comme des cannibales.
Nous sommes à la bifurcation principale du jardin d'acclimatation et il faut imaginer à cette époque, en 1931, un poteau sur lequel se trouvaient deux inscriptions, sur la gauche indiquant crocodile, à droite indiquant cannibale.
Ah que c'est beau, l'exposition!
Dans l'imaginaire de l'époque, on a le Kanak extrêmement repoussant, qui est le cannibale, comme pratiquement le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. C'est véritablement ça qu'ils ont subi. Et le fait que Christian Carambeu ait accepté cette histoire-là, ça a fait vraiment tout exploser.
C'était une histoire assez secrète, tabou, dans le clan Carambeu, où on ne pouvait pas parler justement d'une photographie ou qui traînait dans la commode de mon grand-père. Et à chaque fois qu'on faisait allusion, il parlait de diable. Donc pour lui, c'était impossible d'en parler.
Donc il y avait 4 personnes de sa famille qui ont été exposées comme des animaux en 1931. Ce qui est absolument incroyable, c'est en Nouvelle-Calédonie, la force que ça a prise, cet opprobre jeté sur les Mélanésiens, ça a été d'une très très grande violence, hein, d'imposer ça, c'est une sorte de douleur générationnelle. Il y a véritablement besoin, encore aujourd'hui, d'apaiser ces douleurs.
Il aura fallu plus d'un siècle et demi de souffrance pour que le peuple kanak puisse retrouver sa dignité bafouée sur ce territoire, grand comme 2 fois la Corse, dans l'océan Pacifique. Lorsque les Européens débarquent en 1853, 60 000 Kanaks vivent sur ce caillou depuis 3000 ans. La rencontre est violente. Les colons s'approprient des terres fertiles et le sous-sol riche en nickel. Ils repoussent les autochtones dans les montagnes, les parcs dans des réserves. En 50 ans, la moitié des Kanaks va disparaître. S'ensuit alors un long combat pour la reconnaissance de ce peuple, de son identité, de ses racines et de sa coutume. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie compte 272 000 habitants. 40% sont des Kanaks. Aux portes de Nouméa, la cité Mont-Ravel. Hixon est musicien, écrivain et animateur social. Il est devenu un modèle pour les jeunes, mais ici, les blessures du drame colonial sont toujours présentes.
La fin de l'exotisme. Chez les Kanaks de Nouvelle-Calédonie.
Vous savez qui vous êtes ?
Mais vous êtes qui, vous ? C'est qui votre arrière-grand-père ?
Ouais, mais je peux vous le dire.
Nous, on est sur le vif ici. Tu vois, ici, il y a des blessures qui n'ont jamais été guéries. Et puis là, c'est du temps qu'il faut. C'est pour ça que les rapports entre l'Occident, entre les Blancs, ça a toujours été très tendu parce que il y a eu tellement de mensonges, les relations ont tellement été basées sur la ruse, la spoliation et tout ça que maintenant, ben, nous, on doute un peu. C'est pour ça qu'il y a ce, normalement, ce genre de questions-là, si tu poses à quelqu'un, ben, normalement, ben, je sais pas si tu serais devant toujours avec ton micro. Voilà, c'est un peu très tendu souvent. Nous, on passe toute notre journée à se justifier pourquoi qui on est, pourquoi nous on est ici. Et c'est très énervant. Nous, ici, là, on compose avec ce que tu vois là. C'est des restes de ce qui nous reste de notre rencontre avec la colonisation. On essaie de faire en sorte que le feu reprenne. Mais avec ce que, ça, c'est des restes. Tout ce que tu vois, c'est des miettes. Ce qui nous compose, nous. Tu veux parler des Kanaks, tout. C'est pour ça que le simple fait de dire qui je suis, tu vois, c'est. Tu arrives avec ton micro comme ça. C'est un peu déplacé, moi, je trouve. Par rapport à la tonne de gymnastique que nous, on s'est fait tous les jours pour essayer d'exister. Et jusqu'à aujourd'hui, on se bat toujours. J'ai 40 ans quand même. J'ai pas de diplôme, j'ai rien. C'est ça le combat. On nous a frappés, on nous a torturés pour mettre des linges, pour être autre que soi-même. Même il y a eu la génération aussi, ils partent tout le monde dans des tribus, c'est des réserves. Et tout ce que nous on a eu jusqu'à présent, c'est parce qu'on s'est battu. Ben, c'est pour ça que nous on est un peu méfiants, c'est normal. On est frustrés, on a peur. C'est une douleur que voilà, il faut exorciser, il faut dire. Tout est verrouillé, un peu comme ça en captivité. J'ai sorti dans la psychologie maintenant. Maintenant, tu vois les gosses, maintenant, ben, ils mettent la capuche. Ben, c'est une façon aussi de rester dans les coulisses, quoi. C'est une forme de suicide, c'est une forme de, tu vois, d'extermination. Parce que c'est toujours des rapports conflictuels de domination. Vous avez vu, nous, on apprend le français. Nous, on connaît les croque-mitaines, on connaît les elfes. Mais est-ce que vous connaissez ma langue natale ? Pourquoi c'est toujours dans le sens du plus fort ? Nous, on n'est pas des matricules, on n'est pas des dossiers qu'on on veut être libre. C'est tout simplement ça.
C'est vrai qu'il traduit aussi quelque chose qui reste de ces périodes. Je m'appelle Emmanuel Cazaret-Rouge, je suis conservateur en chef du patrimoine, je suis adjoint au directeur du département du patrimoine et des collections du musée du Quai Branly, Jacques Chirac. C'est le passé colonial, en tout cas, qu'il nous faut assumer. On en est issu aussi d'une certaine manière. Les réserves nous ont formés tels que nous sommes aujourd'hui. C'est une image qui est produite à l'extérieur et qui finit par être intériorisée par les colonisés. C'est ça qui est terrible en fait. Et c'est ce qui explique pourquoi elle est si difficile de s'en défaire. Et je pense qu'il n'y aurait rien de pire que de s'installer simplement là-dedans. Moi, le travail que j'essaye de faire, c'est justement de ne pas se mettre uniquement en situation passive. Je pense qu'il faut au contraire essayer de se mettre en position active, en position d'acteur. Et c'est un peu ce que le mot d'ordre qui a été lancé par Tchibaou depuis les années 75. Kanak est fier de l'être, la tribu à la ville, c'est-à-dire de se penser dans son présent et ne pas se construire une image comme une victime de l'histoire. Ce terme me gêne un peu. On est tous victimes de l'histoire, finalement. Il faut être acteur, en fait. Il faudrait opposer à victime de l'histoire, acteur du présent.
Ici, on est à Mont-Ravel. Et cette maison, ben, on l'a appelée Melom Palace. Mel, chez nous, ça veut dire en lifou, la vie, la lumière. C'est-à-dire, c'est un peu un endroit où on se constitue, nous, les jeunes de la tribu. Puis on apprend à faire la chasse, la pêche, la coutume, parler, connaître les histoires des clans et tout ça. C'est un espace où c'est la transition entre être enfant et adulte. Avec la colonisation et tout ça, ben, on n'a plus ça. Et nous, cette nouvelle façon de vivre, elle a privé un peu aussi certaines choses qui sont aussi primordiales.
En tout cas, vous vous battrez sans doute pour que tous ces jeunes de Mont-Ravel, qui sont un peu stigmatisés, aient leur place dans cette société.
Nous, on joue le rôle de sentinelle. Il y a des bons échos, il y a des bons résultats, parce qu'on a accès à la terre, on fait la culture de l'igname, on joue la musique, on discute entre nous sur les problématiques au niveau de la politique, écologique. Il faut des terrains où on peut se rencontrer. Il faut vite planter des choses, parce que sinon, on va perdre tout ça. Et justement, parler tout simplement en tant qu'être vivant.
Première chose, c'est se réconcilier avec eux-mêmes, ne pas avoir peur de ce qu'on est. Et Tshibahu a réussi à casser ça, à dire non, il faut sortir de ça. Si vous voulez vraiment exister aujourd'hui, il faut être fier de ce que vous êtes. La culture est centrale parce que c'est elle qui permet d'abord d'avoir ce rapport avec son héritage et ensuite de se donner une légitimité aussi pour agir dans le présent, pour négocier, pour construire avec d'autres. Être Kanak, c'est pas avoir cette capacité de créer, de dire le monde, en fait, avec quelque chose qui vous soit propre, qui est pas plus ni moins que pour d'autres cultures, qui est simplement une culture qui, jusqu'à présent, avait été largement mise à l'écart.
On chante toujours la maladie. Maintenant, il faut chanter le remède. Il y a tout à faire ensemble. On construit les bâtiments, mais il faut construire aussi l'homme. Voilà, on propose ça. Ça, c'est une chanson que j'ai présentée aux Francofolies. C'est pour l'espoir.
Voyage en terre d'outre-mer. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Se vivre ensemble s'est construit dans la douleur. La révolution pacifique culturelle des années 70 laisse place à une révolution politique plus violente. C'est un bras de fer entre les indépendantistes et l'État français. Les événements de 1984 à 1988 voient la création d'un gouvernement provisoire d'indépendance de la Kanakie, présidé par Jean-Marie Tshibahu. Des Caldoches, les descendants des Européens sont chassés de leurs terres. Des indépendantistes sont exécutés. Et lors de l'assaut de la grotte d'Ouvéa, 19 Kanaks sont tués par le GIGN. En 1988, ils enterrent la hache de guerre et signe les accords de Matignon. C'est le début de la réconciliation, du destin commun et un pas vers l'indépendance. Une décolonisation dans la République, marquée en 1989 par l'assassinat de Jean-Marie Tshibahu. L'homme de la rébellion allait peut-être devenir l'homme de la paix, les extrémistes ne lui ont pas pardonné. Cette longue marche vers l'émancipation prend sa source à 380 km au nord-est de Nouméa. Pour rejoindre la tribu de Tien Danit, il faut trouver la petite route qui serpente au milieu des collines. À l'entrée du hameau, une peinture murale représente le visage de Jean-Marie Tshibahu, originaire de la tribu. Sa famille aujourd'hui veille à l'héritage.
La fin de l'exotisme. Chez les Kanaks de Nouvelle-Calédonie.
À toi, papa, notre président tombé au champ d'honneur, fils de Kanaki, combattant de la liberté, tu le fus jusqu'au bout. Puisse ton âme dormir en paix, ton exemple inspirer les générations futures, ton rire, ton souvenir lumineux habitent désormais le cœur de tes enfants. Moi c'est Pascal Tshibahu, notre papa il nous appartient plus qu'à nous, il appartient à tout le pays, au monde entier, comme c'est marqué là, tombé au champ d'honneur quoi, pour la libération de notre pays. Et ça fait partie de nous, quoi. On n'est pas tout seul. Il y a les gens qui sont vivants, qui sont là, qui sont présents, qui sont debout. Puis il y a tous ceux qui sont plus de ce monde physique, mais qui sont toujours là à nos côtés, quoi. Il y a le vieux, il disait une expression, ça fait partie, c'est les gens qui sont de l'autre côté du miroir, quoi. Il y a toujours cette relation avec, avec les esprits, avec ceux qui nous ont précédés. Et les fruits que l'on récolte aujourd'hui, c'est pour beaucoup le sang versé. Mais j'ai envie de dire que la vie, elle continue, parce que sinon, ce serait déjà tirer une balle. Moi, je vous parle comme ça, mais il y en a qui n'ont pas pu, comment dire...
Survivre.
Il y en a qui sont devenus fous avec cette histoire-là. Quand vous avez 10 hommes de votre tribu qui font partie des forces vives dans une petite tribu d'une centaine d'habitants, des pères de famille, des chefs de clan qui disparaissent d'un coup, ben ça fait un sacré vide. Et puis après, quand vous avez le chef de tribu qui était Jean-Marie Tshibahu, avec sa stature, son aura qui disparaît ensuite, ça a été difficile, très difficile. Quand on a cette histoire-là, vivre, ça a une saveur particulière.
Mais j'ai vu cette tribu décimée. Son mari, ses grands-parents ont été tués, lui-même, ses frères, donc c'est la cicatrice.
Wallace Cotra, Kanak, homme de médias.
Et en plus, Tiendanit, c'est une de nos tribus les plus reculées dans la montagne. En touchant à Tiendanit, on touche au fond de quelque chose de chez nous.
Là où on est, là, donc sur le site où il y a la chefferie et la maison commune, ça c'est au temps de la colonisation, c'est le temps où se situe la réserve de Tiendanit. Donc juste là, à 50 mètres plus bas, on a un petit pont. Et c'est là qu'il y avait la barrière qui délimitait la réserve des indigènes. Puis ben, quand on passait cette barrière, on passait dans la propriété des colons, qui avaient eu par le biais de l'administration des titres de propriété, sans prendre en considération les droits et les usages des gens qui étaient là, quoi. En 84, on arrive à un moment où donc il y a la revendication foncière qui est en parallèle de la revendication d'indépendance, très importante, et donc on demandait d'agrandir les réserves. Les tensions se sont, on va dire, accentuées de part et d'autre. Eh bien, il y a une série de barrages, de contre-barrages entre les indépendantistes, les loyalistes. Il y a les premières heures et puis les premiers morts. Et donc le soir du 5 décembre, les gens d'ici, là, ils ont eu une réunion au centre culturel. Et en remontant à la tribu, les colons qui étaient là à l'époque, ils ont tendu une embuscade à tous les papas, là. Eh bien, il y en a 10 qui sont mortes, quoi, par balle, en lâchant les chiens, en achevant les blessés, en brûlant les voitures, tout ça. Bon, c'est assez dur comme histoire, quoi, hein.
Il y avait hier ce combat pour la reconnaissance, mais aujourd'hui c'est le combat pour comment être dans la construction de notre pays avec les autres. Mais en même temps, Tiendanit a sorti Jean-Marie Zibaou. C'est-à-dire que de ce petit village de la montagne perché est sortie une parole, et on vit encore sous l'ombre de cette parole aujourd'hui. Et donc c'est une force qui est sortie du gâchis, quoi. De ce tas de blessures émerge toujours quelque chose de nouveau, quoi.
Nous, on est en train de s'installer sur les terres qui ont été revendiquées par nos papas. C'est le meilleur message qu'on puisse faire, parce que c'est aussi dire que voilà, ben, malgré qu'ils ne sont plus là, la suite, elle est là. Ils ont revendiqué, ils ont dit, ben, vous allez vous installer là. Nous, la génération, on le fait pour que leur sacrifice n'ait pas été un vain sacrifice. Nous, nos vues n'ont pas vu de leur vivant l'indépendance. On est plein dedans et on a bon espoir qu'en 2018, la Kanaky devienne une réalité pour nous. C'est la suite et c'est notre but. Après, la Kanaky, ce n'est pas qu'un mot, c'est aussi un contenu. Et le contenu, c'est aussi déjà le faire vivre à travers la fête de l'igname que l'on fait ici.
Voyage en terre d'outre-mer. Une série d'Anne Pastor sur France Inter.
Ah, là. Il y en a qu'on dit. Toutes les familles vont nous montrer les ignames. Après, nous, on va leur montrer, d'accord?
Oui.
Donc là, votre travail, ça va être de...
les transporter.
Voilà, on est ici dans le village de Tiendanit, rassemblés autour de la case commune. Tout le monde a apporté sa première récolte d'ignames, puisqu'aujourd'hui, c'est la fête de l'igname, la fête de la Renaissance.
On prépare un peu les ignames. Donc ce qui est présenté ici, c'est le fruit du travail des hommes.
Emmanuel Djibaou.
Toutes les autres familles qui sont là-bas, là-bas, vont arriver. Tout le monde va venir lui montrer les ignames. Le chef, Vianney, il va dire les paroles, dire la nécessité d'être ensemble aujourd'hui. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait ces coutumes-là, de manger les ignames ensemble, eh bien, on peut faire les cérémonies coutumières, les mariages, les deuils, les naissances, avec les ignames, parce que c'est rappeler le lien qui nous lie avec la terre, qui lie à notre histoire, qui lie à l'histoire des clans. Nous, on fait que rappeler ce lien-là quand on fait les cérémonies avec les ignames.
C'est un moment assez émouvant. Les femmes, d'ailleurs, sont en retrait sur le côté de cette grande case, puisque la case est habituellement réservée aux hommes. C'est d'ailleurs une fête que vous n'aviez pas pratiquée depuis longtemps ici dans la tribu.
Je sais pas, depuis, je pense, les années 90. Du coup, chaque famille, ils en ont un peu peur de se tromper aussi, parce que les vieux, ils sont plus là. Et que les gens, ils étaient dissous, quoi. C'était le silence, parce qu'il n'y avait que des gamins, quoi, avec des vœux.
Ça me fait plaisir qu'on refait la fête des ignames, que les gestes continuent. C'est une sorte de rituel où on rejoue le commencement des choses. et donc on s'affirme. C'est à la fois quelque chose qui nous vient de la nuit des temps et que chaque génération réinvente. Et je crois que ça fait partie de nos mythes fondateurs que l'on renouvelle à chaque fois. On a cette histoire-là, quoi, où finalement, le mythe fondateur vous permet de trouver la place là où vous êtes et de réoccuper l'espace, mais en passant par la porte, pas par la fenêtre, pas par la colonisation, pas par la négation de l'autre, mais en respectant, en faisant la coutume.
Toutes les familles présentent leur igname, leurs oiseaux et leurs poissons à Vianney, le chef de cette tribu. Pas beaucoup de paroles, mais on sent que c'est un moment important.
Et puis ici, on parle une langue qui s'appelle le pidgin. Donc c'est la langue dans laquelle on fait les échanges. Du coup, les mots qu'on dit à l'occasion de ces cérémonies-là, ça se prononce qu'à cette cérémonie-là.
À ce moment-là, pendant la fête des ignames, les hommes disent les paroles qui ne meurent jamais. C'est une sorte de garantie de notre éternité, j'allais dire. Cette fête d'Ignam qui est recélébrée dans la tribu des Tiadanites, c'est cette résurgence qui réapparaît. Mais avec les douleurs, avec tout ce qui est notre passé, ça charrie tout ça. Quand il est mort, Jean-Marie Thibaou, il y a le père Apikawa qui dit « Ça fait beaucoup de bruit quand un banyan tombe. » Mais on n'entend pas les jeunes banyans qui poussent dans la forêt. Mais voilà, le banyan a poussé. Et c'est pour ça qu'ils refont la fête des Ignam. Parce que la vie a continué. Ça ne s'est pas arrêté avec la mort de Jean-Marie. La parole circule toujours. Ce sont des paroles qui ne meurent jamais. Et qu'on a la conviction, mais c'est une foi, hein, que dans 100 ans, à Tiendanit, on refera les mêmes gestes.
Les mots qu'on dit pour Pédia, manger l'igname ensemble aujourd'hui, on espère que l'année prochaine, on va refaire peut-être mieux. Coïn. Alors, venez à Manou, Kapokane.
Chez nous, l'année, elle commence avec cette cérémonie, vraiment.
Marie-Claude Gibaou.
Et puis c'est la seule fois où, ici à la tribu, on est ensemble. Chacun vient ici parce qu'il a une place particulière, ici. C'est l'occasion de le dire, c'est les paroles qu'ils s'échangent. C'est un exercice de renforcement de la cohésion sociale, hein, du clan, et puis après de la tribu dans son ensemble. Et puis le fait que toute la communauté, elle est ici, ça permet aux plus petits d'observer, et la répétition de ces gestes fait que c'est ça la manière de faire.
Marie-Claude a eu la redoutable responsabilité de la transmission. À la fois être à l'écoute des gens, parce que ça a été un traumatisme, la mort de Jean-Marie, mais en même temps transmettre les choses à ses enfants, à son clan, au pays. Elle a transmis par la parole, par ses actions qu'elle a menées. Elle a présidé le centre Thibaou. Le geste de pardon qu'elle a posé devant la famille de l'assassin de son mari en 2004, c'est quelque chose qui a marqué notre pays. Et je crois que ça nous a donné une force.
Ici, il se dégage une puissance.
C'est pas... En fait, c'est vous qui sentez ça. Nous, on est chez nous.
Ouais.
Mais c'est un lieu chargé d'histoire, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Non, ça, c'est pas de maintenant. Déjà en 17, déjà à cette époque-là, la tribu elle a été décimée. Les survivants sont les parents de ceux qui désormais sont au cimetière. Jamais les gens d'ici ont capitulé, ils se sont toujours levés pour résister, quoi. Hein.
Mais Pape Bernard, je suis le président du conseil du camp de l'autre bout. Il a fallu qu'il y ait des événements pour qu'aujourd'hui on puisse se reconnaître en tant que Kanak.
Mais c'est terrible, hein, parce qu'il a fallu en fait la mort d'hommes, les 10 hommes ici de l'embuscade, l'assassinat de Jean-Marie Djibaou, pour que finalement vous puissiez être reconnu en tant qu'homme. Vous étiez aussi dans l'embuscade.
Oui, j'étais aussi dans l'embuscade.
Aujourd'hui, encore plus de 30 ans après, vous êtes en colère.
La colère, c'est depuis la colonisation du pays, et c'est ce colère-là, c'est jusqu'à l'indépendance totale du pays. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le peuple kanak, parce qu'en fait, on essaie de toucher un peu nos enfants et nos petits-enfants à renouer notre culture à nous. Et aussi, en tant que peuple, la relève est assurée. S'approprier sa culture et refaire les traditions, c'est ça la lutte du peuple kanak.
En ce qui concerne les Kanaks, il y a toujours eu une conscience de soi, qui est une culture assez forte, qui a traversé comme ça des siècles, et donc qui qui se résume pas à cette période de face à face avec l'Occident. Il a fallu à un moment s'affirmer, puis dire nous aussi, on existe. Quoi. La colonisation, c'est une négation de cela. Le mari dit souvent, on ne peut pas vivre comme des clochards culturels. Et il a fallu ce conflit finalement pour que les deux légitimités s'affrontent, et notamment que la légitimité kanake s'affirme. Tout ça s'est fait dans le sang, mais c'était important que les choses s'expriment ainsi, pour qu'ensuite on puisse dire finalement, on est obligé de tenir compte de cela pour avancer. Quoi.
Je m'appelle Louis. Louis Thibault. Je suis fier parce que mon grand-père, il a fait des choses. T'es Thibault, mais Thibault, c'est juste un clan quand tu arrives ici. Après, quand c'est la rentrée des classes, tout, ils te disent « Ah, mais ton grand-père, machin, ton grand-père, ceci. » Je sais ce qu'il a fait et comment il est parti, donc voilà.
Toi, tu trouves ça important de revenir ici, de pouvoir suivre les grandes fêtes?
Oui, c'est important. C'est très important. Parce qu'après, quand on sera grand, ce sera notre tour. Donc il faut au moins savoir faire.
Qu'est-ce que tu te dis que quand même, cette tribu, elle a beaucoup souffert?
Oui, elle a beaucoup souffert. C'est ça qui fait la force. Quand t'as une douleur, tu vas t'en remettre. Certes, il y en a qui sont partis. Même si on les a pas connus, ben, moi, je vais raconter ça à mes enfants. On va venir ici, peut-être. Ça fait plaisir. C'est la première fois que je fais ça. La nouvelle union avec toute la tribu.
Et alors, t'as vu ce qu'il y a marqué sur ton t-shirt?
Oui. L'homme n'est jamais individu. Il est le noyau d'un ensemble.
Ici, c'est le moment où on rappelle les chemins, les alliances, et puis le fait que on est des hommes d'ici, et puis pas d'ailleurs. Quoi. Puis le fait d'entendre rire les enfants, de fouler la pelouse, et puis de faire du bruit ici dans la cour, c'est aussi marqué que la vie, elle reprend. C'est l'homme qui se régénère. Mais pour que ça soit vivant, il faut planter des paroles, il faut planter des arbres. Il faut... Puis c'est aussi une manière pour nous de construire des références pour nos enfants dans cette continuité-là. Ça sera à eux d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la tribu. Nous, notre combat, tout ça, papa, tout ça, ils se sont battus pour ça. Et on est debout à côté des ignames, on est debout dans la cour. La lutte pour notre pays, elle se fait avec des hommes qui sont debout.
Des hommes debout et une autre manière d'être, de vivre et d'agir dans le monde. C'est ce que nous découvrirons la semaine prochaine dans Voyage en terre d'outre-mer, auprès de ces peuples oubliés, aujourd'hui, aux avant-postes du réchauffement climatique. C'était un documentaire d'Anne Pastor, réalisé par Clément Baudet, au montage Édouard de Penoat, assisté de Maréva Jacquard, Charlotte Landru et Marie Bauchère. Au mixage Rémi Quincé et à la programmation musicale Chewbacca. Vous pourrez réécouter cette émission sur franceinter.fr et merci à Paul Wamo, à l'Agence de développement de la culture kanak, John Passa et à Yves Géry, auteur des Abandonnés de la République. Ce programme a reçu le soutien en Guyane d'Air Caraïbes, Air Guyane et Evaneos, en Nouvelle-Calédonie, d'Air Calin et de l'Office de tourisme. Le voyage continue sur France Inter, aux îles Marquises et au Sénégal avec l'espace francophone.